bonjour à tous. Vous voyez la grosse bite que j'ai, je vous en sortirai vérité aujourd'hui, hein, une bite comme ça. Rassurez-vous, c'est la même que la vôtre. Soit dit en passant, pour ceux qui ont une mauvaise vue comme moi, je vous la conseille, c'est la Bible en français courant. Mais il y a de belles grosses écritures, ça très facilitant pour ceux qui ont des lunettes ou pour ceux qui commencent à devenir un tout petit peu plus âgés. Voilà, comme moi. Quoique moi, je porte des lunettes depuis l'âge de 6 ans, donc voyez-vous, j'étais vieux, très jeune. J'ai envie ce matin, par ce message que je vais vous apporter, que le Seigneur m'a mis sur le cœur, que nous puissions avancer, que nous puissions aussi peut-être connaître le chemin de la libération dans notre vie chrétienne. Que le Seigneur vraiment ce matin puisse ouvrir nos oreilles spirituelles afin de nous faire comprendre ces choses. Est-ce que vous avez déjà vécu dans votre vie un sentiment d'abandon? Avoir cette impression que Dieu nous abandonne. Dieu n'étant plus là auprès de nous, sa présence rassurante nous fait défaut, alors que nous avons senti pendant des longues années sa présence et puis plus rien. Où est-il? Dieu semble lointain, Dieu semble distant. On dirait que Dieu ne s'occupe plus de nous. Et on pourrait lui dire, Dieu, tu es si lointain, que fais-tu? Es-tu loin de moi? Un peu comme le prophète Élie qui semblait tout perdu, ne sentant plus la présence de Dieu, et bien d'autres aussi. Seigneur, tu ne me parles plus. Seigneur, tu ne réponds plus à mes cris. Seigneur, tu ne réponds plus à mes supplications. Seigneur, tu ne réponds plus à mes prières. Il semble, Dieu, que tu aies disparu de ma vie. J'ai l'impression que tout le monde m'abandonne. Mes amis, ma famille, tout le monde m'oublie. Avoir tant fait, s'être tant donné pour les autres et en se retrouver seul, abandonné, sans ressources, au bord du chemin. Que fais-tu, mon Dieu? Pourtant, la Bible, la parole de Dieu est pleine de promesses. Mais dans ces moments-là, on se dit, oh, ces promesses-là ne sont pas pour nous, c'est pour les autres. Et on se met même à douter de la Bible, qui est la parole de Dieu. On se dit, mais est-elle vraiment la parole de Dieu? Et s'il y avait un autre chemin, s'il y avait une autre Bible? Ça vous rappelle Jean-Baptiste, qui, quand il se retrouve en prison, il se met à douter. Pourtant, j'ai annoncé la venue du Messie, mais est-ce bien lui? Est-ce bien toi, Seigneur? Il y en a un peu comme lui. Notre vie vaut-elle vraiment la peine d'être vécue? Et le doute s'installe. Il nous submerge, l'incertitude et l'angoisse nous envahissent. Et nous faisons du surplace dans notre vie spirituelle. Que dis-je, du surplace même, nous reculons. Et nous sommes rongés par l'inquiétude. Et j'ai intitulé ce message « Dieu nous abandonne-t-il ?» Et pour cela, je vous propose une lecture dans le psaume 22. Psaume 22. Et je lirai donc dans la version en français courant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, le jour je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas, et la nuit encore je suis sans repos. Pourtant, tu sièges sur ton trône. Le Saint Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance. Ils comptaient sur toi, tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours et tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance, tu ne les as pas déçus. Moi, on me traite comme une vermine, je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent, tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font la moue, ils secouent la tête. Ils disent de moi, il a remis son sort au Seigneur, eh bien, que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime, eh bien qu'il le sauve. Seigneur, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté contre sa poitrine. Dès ma naissance, j'ai été confié à toi. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne reste pas loin de moi. Le danger est proche et personne ne vient à mon secours. Mes adversaires sont autour de moi, comme de nombreux torrents. Ils m'encerclent comme de puissantes bêtes du Bashan. On dirait des lions féroces qui rugissent, qui ouvrent la gueule contre moi. Ma force s'en va. Comme l'eau qui s'écoule, je ne tiens plus debout. Mon courage fond en moi comme la cire. J'ai la gorge complètement sèche, ma langue se colle à mon palais. Tu m'as placé au bord de la tombe. Une bande de malfaiteurs m'encercle, ces chiens ne me laissent aucune issue. Ils m'ont lié les pieds et les mains. Je suis tellement amaigri, je peux compter tous mes os. Mes adversaires me regardent fixement, ils se partagent mes habits, ils tirent au sort mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Tu es ma force, viens vite à mon secours. Sauve-moi d'une mort violente, protège ma vie contre la dent de ces chiens. Délivre-moi de leur gueule de lion et de leurs cornes de buffle. Oui, tu m'as répondu. Je veux parler de toi à mes frères et à mes sœurs. Je veux t'acclamer parmi les fidèles assemblés. Acclamez le Seigneur, vous qui reconnaissez son autorité. Honorez-le, vous tous descendants de Jacob. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. Car le malheureux qui est accablé, il ne l'a pas méprisé, il ne l'a pas rejeté. Il ne s'est pas détourné de lui, il a entendu son appel. Seigneur, c'est grâce à toi que je te louerai dans la grande assemblée. Devant ceux qui reconnaissent ton autorité, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. J'invite les personnes qui sont humbles, qu'elles mangent à leur faim, que ceux qui cherchent le Seigneur l'acclament, qu'ils aient une longue vie. Que les populations les plus lointaines se souviennent du Seigneur et reviennent à lui, que les familles de toute la terre se prosternent devant lui. Car le Seigneur est roi, il règne sur les peuples. Ceux qui sont pleins de vie mangent et se prosternent devant lui, et devant lui aussi s'agenouillent. Tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent se maintenir en vie. Leurs descendants le serviront. On parlera du Seigneur à la génération. La nouvelle génération racontera à ceux qui vont naître ce que Dieu a fait dans sa justice. Voilà un long psaume que nous connaissons tous. C'est vrai que ce psaume est le reflet d'un grand abandon. Bien sûr, ce psaume est un psaume prophétique. Il annonce la mort du Sauveur Jésus-Christ. Les paroles de ce psaume sont citées par Jésus en croix. Mais je crois aussi qu'il nous parle de l'état de souffrance et dans l'abandon dans lequel se trouvait le roi David. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quel cri déchirant, quel cri terrible de prononcer ces paroles, bien sûr. Le Christ en croix a crié cela, parce qu'il se sentait abandonné du Père, lui qui avait toujours vécu en sa présence. Mais David aussi, c'était un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Et en ce moment-là, il se sent abandonné, il se sent seul, abandonné de Dieu, le sentir si loin, ne plus goûter sa présence. Ne plus goûter son amour. Ce sentiment d'abandon brise le cœur de David. Ce n'est pas que David ne s'adresse plus à Dieu. Nous voyons que David prie Dieu. David invoque son Dieu, mais il semble qu'il ne reçoit aucun secours de sa part, pas de réponse de son Dieu. Le ciel semble fermé. Comme si cette relation intime était coupée. Avez-vous déjà vécu des moments semblables où tout semble noir dans votre vie? où vous semblez avoir perdu cette relation intime avec votre Dieu, où vous ne sentez plus Dieu, où vous ne le voyez plus Dieu, vous ne ressentez plus rien, vous avez beau prier. Tout est noir autour de nous. Dieu est-il encore près de nous? Personnellement, j'ai traversé des moments aussi difficiles. Traverser ce désert spirituel, et peut-être certains d'entre nous, peut-être tout le monde, vous avez déjà traversé ce désert, ce sentiment d'avoir perdu Dieu. C'est dur, c'est presque irréel pour nous chrétiens qui avons goûté combien Dieu est bon. Et David se plaint, pas de repos la nuit. Les nuits semblent interminables pour David. Et si vous souffrez d'insomnie, vous devez vous rendre compte qu'une nuit, c'est long. Hein. Pourtant, c'est les mêmes heures que le jour. Mais quand vous êtes couché dans le noir, dans votre lit, que vous tournez et retournez, que vous descendez boire un verre d'eau, vous allumez peut-être la TV pour faire passer le temps, que vous remontez au lit et puis vous retournez, c'est long. Et quand on est dans le noir, quand on est au lit, toutes sortes de pensées nous traversent. On pense à un tas de choses. Tant de souvenirs nous viennent à l'esprit. Et c'est souvent des souvenirs de jours heureux, quand on était bien, quand tout allait bien dans notre vie. Souvenirs de bénédictions abondantes. Souvenirs de joie de vivre. Et on se pose un tas de questions dans ces moments-là. Pourquoi dois-je traverser ce désert? Pourquoi dois-je traverser ce chemin désertique, aride, sans Dieu, croit-on? Et pas de réponse à tout cela. Et après une nuit aussi difficile, on est content de voir poindre le jour. Maintenant, ça va, le jour se lève tôt, mais l'hiver, à 8h30, il fait encore noir. Nous ne voyons pas pourtant le psalmiste renier son Dieu. Il ne renie pas son Dieu. Chose qui pourrait peut-être nous arriver quand on traverse ce genre de désert. Malheureusement, certains renient Dieu. Dieu n'existe pas, c'est pas possible. S'il y avait un Dieu, je ne pourrais pas traverser telle chose. Tellement la solitude nous envahit. David est certain que Dieu existe, quoique dans ces moments, on peut se permettre de douter de son existence et peut-être parfois remettre en cause certaines vérités fondamentales, certaines vérités bibliques, parce que on ne sent plus rien. Non, il reconnaît que Dieu a agi dans le passé. Il y a eu des miracles dans sa vie, il y a eu des exaucements, et nous pouvons aussi reconsidérer notre vie si nous traversons ces moments difficiles, nous dire, mais tel moment j'ai vu la grâce de Dieu, tel moment j'ai vu la main de Dieu sur moi. Et il se rappelle que Moïse, les prophètes, ont accompli des miracles. Mais maintenant, rien ne va plus. Dieu semble être muet. Quelle souffrance pour David, quelle souffrance pour des chrétiens qui passent par ce désert spirituel, ne comprenant pas ce qui leur arrive vraiment. Eh bien, David se souvient de tout ce passé béni, ne comprenant pas ce qui se passe, et ne comprenant pas que les anciens ont connu la gloire de Dieu, la confiance en Dieu leur a permis d'être victorieux face à leurs ennemis. Frères et sœurs, ne connaissons-nous pas ce terrible drame spirituel? Que se passe-t-il dans notre vie? Pourquoi ce silence? Pourquoi cet abandon de la part de Dieu? Dieu, je crois que tu es vivant, que tu peux agir. Je vois des frères et des sœurs dans la bénédiction. Ils sont dans la joie et moi je souffre, je ne t'entends plus. Le ciel semble complètement fermé, bouché. Bouché par qui? Bouché par quoi? On ne sait pas. Il me semble que mes prières ne dépassent pas le plafond. Quand d'autres se réjouissent en toi, moi je suis dans le désarroi. N'avez-vous jamais connu ce sentiment-là dans votre vie chrétienne? C'est lourd. C'est difficile à vivre. C'est difficile à supporter. Tout cela peut nous conduire à une dépression spirituelle où il est difficile parfois de se relever. Non seulement David se sent abandonné par Dieu, mais quand nous lisons ce texte, il doit aussi subir les moqueries de son entourage. Son entourage se moque de lui, son entourage se moque de la situation dans laquelle il se trouve, il se sent incompris. Il y a ses ennemis qui sont les premiers à se réjouir de ses souffrances, de sa situation difficile. Il est vrai que si nous nous aimons bien entre nous, nous n'avons pas que des amis dans notre vie. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui nous détestent, malheureusement. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais il y a des gens qui ne nous aiment pas et qui sont heureux de nous voir parfois dans une situation difficile. Mais ce qui fait le plus mal à David, ce qui fait encore le plus de mal, c'est l'attitude de son entourage, de ses proches, ceux qu'il considérait comme ses amis, ses frères dans la foi, pourrait-on dire, en qui il avait une pleine confiance, en qui il avait un grand amour vis-à-vis d'eux. Il voit qu'il l'abandonne sans crier gare. Ses amis-là le critiquent, ses amis-là le méprisent. Oui, frères et sœurs, je crois que ça fait très mal de voir sa confiance trahie par ses proches, oui, ceux sur qui on comptait, qui vous tournent le dos. Je pense que nous avons tous vécu ça, des gens qui nous ont tourné le dos, des gens pour qui nous nous sommes parfois démenés, avec qui nous avons travaillé, avec qui nous avons mangé, bu, ri, nous sommes amusés, nous avons partagé un tas de choses, et puis du jour au lendemain, quand nous sommes dans le désarroi, quand nous sommes dans la difficulté, ils nous tournent le dos. En tant que chrétiens, ça fait mal et très difficile d'accepter quand nous voyons nos frères et sœurs nous lancer des flèches empoisonnées parfois, au lieu de venir nous consoler, de nous remonter le moral, voire de prier pour nous. Frères et sœurs, si nous voyons quelqu'un qui est dans la détresse, qui vit ce que David vit, et que nous en apercevons, n'allons pas le critiquer, mais entourons-le de notre amour fraternel, que nous puissions lui apporter consolation. Oui, on entend malheureusement des paroles dures au lieu de bénédictions, parfois à notre égard, des propos déplacés. Lui arrive-t-il ? Lui qui était si actif dans l'Église, lui qui priait tout le temps, toujours là pour se démener pour l'Église, et bien d'autres paroles de découragement peuvent être prononcées en notre égard. Au lieu de faire monter des prières de délivrance pour ce frère, pour cette sœur qui est dans la difficulté, on critique, on juge, sans trop bien savoir ni connaître sa situation spirituelle. Avant de juger quoi que ce soit, d'abord nous n'avons pas à juger. Qui es-tu, toi, qui juges ton frère? Si tu es debout, prends garde de tomber, parce que ça peut t'arriver aussi, ça nous pend sur le nez à tous, de nous sentir abandonnés, de nous sentir dans cet état. Frères et sœurs, quand un de nous est dans le creux de la vague, c'est le moment où il a le plus besoin de nous, de notre affection, de notre soutien, de nos encouragements, de nos prières, afin qu'il remonte la pente. Malheureusement, parfois, comme je l'ai dit, nous avons une attitude qui enfonce le chrétien. Intercédons pour ce frère, pour cette sœur, afin que l'Esprit de Dieu le réveille de cette torpeur spirituelle. Quand nous passons par cette épreuve et que même nos plus proches nous lâchent, nous avons l'impression que l'étau se resserre de plus en plus. On se sent encerclé sans aucune possibilité de nous en sortir. On a l'impression que le monde entier est contre nous. Mais Dieu, que fait-il? Dieu dort-il? Est-il insensible à ma souffrance? C'est les questions que nous pouvons nous poser. Non seulement, frères et sœurs, il y a la souffrance morale, la souffrance spirituelle, mais aussi il y a cette souffrance physique. Parce que quand on est dans le creux de la vague, on se laisse aller et notre santé physique en prend un coup. On y laisse des plumes dans ces moments de difficulté. On perd l'appétit. On devient malade. On est dégoûté de tout. On est complètement au bout du rouleau. Et notre santé en prend un coup. Nous voyons dans le texte que David a écrit, ce passage où il nous dit, où on se partage ses vêtements. Bien sûr, quand nous lisons ce passage, nous pensons tout de suite à la scène qui s'est passée à la crucifixion, quand les soldats romains se sont partagés les vêtements de Jésus. Jésus était mourant et se sont dit, mais il n'a plus besoin de vêtements. J'ai un peu réfléchi ce que ça pouvait représenter pour nous, ce partage de vêtements. Et dans ce passage, si nous le reprenons spirituellement pour nous, je vois plutôt notre entourage chrétien, disons-nous, parce que c'est plus au niveau spirituel que je veux parler. Je vois notre entourage nous voyant dans cet état de dépression, dans cet état de découragement. Parfois, ils pensent à notre mort spirituelle. Et alors, on veut se partager nos vêtements spirituels. On va commencer à penser à remplacer ce frère ou cette sœur. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse encore dans l'Église, dans l'état où il est ? Et on se partage ses vêtements. On se dit, ben, on va prendre ses fonctions. Au lieu d'attendre et de prier, Seigneur, relève ce frère, relève cette sœur, qu'il puisse être rétabli dans le travail qu'il faisait, qu'il puisse être rétabli dans la charge que tu lui as confiée. Non, on se partage ses vêtements, de toute façon, il ne foutra plus rien de bon dans l'Église. Il n'est plus bon à rien. Ne pensons pas à remplacer déjà quelqu'un qui est dans le creux de la vague, frères et sœurs. Pensons à prier, à l'encourager, pensons à le soutenir. Tant qu'il y a de la vie, dit-on, il y a de l'espoir. Et si ce faible lumignon fume, la Bible dit, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Et si dans ta vie, mon frère, ma sœur, il ne te reste plus que quelques braises, on peut souffler sur ces braises. Le souffle de Dieu peut souffler sur ces braises pour que tu reprennes vigueur, pour que tu reprennes vie. Ce matin, c'est ma prière pour chacun d'entre nous qui passons peut-être par ce moment difficile. Je désire que le souffle de vie de Dieu vienne souffler, ranimer, ranimer. Tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir, frères et sœurs. Il ne faut pas enterrer quelqu'un trop vite. Soyons prudents. Mais je voudrais aussi dire que celui qui se trouve dans cet état spirituel difficile, un conseil, quand on est dans la faiblesse, ne te complais pas dans cette situation. Ne te complais pas dans cette situation. Ne pas vouloir à tout prix qu'on te plaigne. Si Dieu a sa part pour nous relever, frères et sœurs, et Dieu veut relever le frère ou la sœur qui est dans une situation difficile, qui se sent abandonné, il y a aussi notre part de travail. À nous de vouloir aller vers Dieu, à nous de vouloir remonter la pente. Il y a un soupçon qui est important. Nous disons souvent, Seigneur, envoie le réveil sur l'Église. N'est-ce pas plutôt à l'Église de se réveiller ? Parce que Dieu est réveillé. Hein. Mais c'est l'Église, des fois, qui dort. C'est nous qui dormons, frères et sœurs. Alors le Seigneur veut nous réveiller. Il y a un sursaut important qui doit être fait par l'Église et par ceux qui sont dans le creux de la vague. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'à partir du verset 20, nous voyons que David a un sursaut spirituel positif. Il y a une force que nous donne la prière. une force que nous donne cette prière si nous nous remettons à prier sans relâche, afin de nous sortir de l'ornière. Arrêtons de nous plaindre, de nous complaindre dans la défaite. Nous devons intercéder, nous mettre sérieusement à cette prière, proclamer la victoire de Christ à la croix. Le Seigneur a porté toutes ces défaillances, le Seigneur a porté tous ces problèmes que nous rencontrons à la croix, il s'en est chargé, frères et sœurs. Il a combattu toutes les puissances ennemies, qu'il a crucifiées. L'apôtre Paul nous dit, je suis crucifié avec Christ. Nous devons crucifier toutes ces maladies, tous ces problèmes spirituels, nous devons les porter à la croix. Proclamer la victoire que le Christ a obtenue à la croix contre les puissances ennemies. Ce qui nous paralyse doit être crucifié au nom de Jésus-Christ encore ce matin. Nous devons proclamer cette victoire. Nous ne devons pas nous avouer vaincus. Nous sommes du côté du plus fort, ne l'oublions pas. Et parfois nous l'oublions en tant que chrétiens. Nous sommes des petits caliméros qui nous plaignons toujours alors que nous sommes du côté du vainqueur. Si vous vous rappelez l'histoire d'Élisée quand ils étaient encerclés par l'armée syrienne. Et le serviteur qui vient le trouver, apeuré, que dit Élisée, « Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. » Et quand le serviteur a les yeux ouverts, il a vu l'armée de l'Éternel combattre pour Israël. Ce matin, je prie, pour que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels, si tu te sens encerclé, pour que tu vois l'armée de Dieu combattre pour toi, pour que tu vois vraiment que le Saint-Esprit est là pour te soutenir. Ouvrons nos yeux spirituels et voyons l'armée de l'Éternel combattre avec nous. Nous sommes du côté du plus fort, frères et sœurs. Nous sommes du côté du Christ ressuscité. Et nous voyons que Dieu répond à son serviteur David. Dieu ne le laisse pas sombrer dans la force. Dieu répond toujours en son temps. Je le dirai toujours parce que ça a marqué ma vie. Dieu a toujours répondu en son temps. Il dit là et pas plus loin. Soyons certains, là et pas plus loin. Quand Satan a tenté Jésus, il a été jusque là et pas plus loin. Et c'est la même chose pour nous. Dieu ne permettra pas que son bien-aimé, nous sommes ses bien-aimés, qu'il tombe dans le ravin. Non, là et pas plus loin. Dieu permet ce temps de désert, c'est vrai. Car pour nous, frères et sœurs, c'est aussi une formation afin d'affermir notre foi, afin de nous épurer, afin de faire un pas plus loin avec le Christ. Nous mettre à l'épreuve afin de voir notre taux de confiance en lui. Quand Dieu répond, c'est à ce moment-là, frères et sœurs, que nous devons être encore plus sur nos gardes, parce que tout n'est pas fini. Quand Dieu répond et nous rétablit, c'est là que commence le combat, parce que notre ennemi va s'acharner contre nous, parce qu'il ne nous aime pas, je l'ai déjà dit souvent, Satan ne nous aime pas. Et ne veut pas que nous soyons bien spirituellement. Alors, frères et sœurs, si tu es dans le désarroi ce matin et que tu as le coup de booster du Seigneur, prends garde de rester debout, parce que l'ennemi ne va pas te rater. Tout n'est pas fini, parce que Dieu a répondu à notre cri, à notre prière. Là, il faut redoubler de vigilance. Et quand le Seigneur nous remet en place, quand le Seigneur nous rétablit, n'oublions pas de louer Dieu, d'être reconnaissants pour ses bienfaits, pour ses grâces. Dieu ne nous est redevable de rien, frères et sœurs. Ce qu'il accomplit, c'est parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Et s'il a envoyé son Fils sur la croix, c'est parce qu'il aimait l'humanité, c'est parce qu'il aimait l'homme qu'il a créé à son image. Et il ne supportait pas de le voir sombrer et se perdre. Tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il répond à nos prières. Et je vais terminer en vous disant, Dieu ne nous rejette pas. Dieu ne nous abandonne pas. Il permet un temps de désert afin de nous faire grandir, frères et sœurs. afin de nous façonner à son image. Soyons certains, Dieu n'est pas sourd. Il entend notre prière et en son temps, il exauce notre prière. Tout cela pour sa gloire. N'oublions pas de le remercier. N'oublions pas de témoigner de ses bienfaits autour de nous. N'oublions pas de dire combien Dieu a été grand pour nous relever, combien Dieu a manifesté sa grâce sur nous. Frères et sœurs, le monde doit connaître les bienfaits de notre Dieu à notre égard pour prouver sa grandeur, afin que l'Église puisse ainsi avancer. Ainsi, nous pourrons nous encourager les uns les autres. Nous pouvons encourager nos frères qui passent par des moments difficiles, les encourager pour qu'ils voient la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Amen. Prions le Seigneur ce matin. Je ne sais pas quel est votre état. Je ne sais pas comment vous vous trouvez ce matin. Mais sachez, Dieu ne vous abandonne pas. Allons prier. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Seigneur, nous voulons ce matin croire que tu relèves celui qui est tombé bien bas, celui qui est découragé, celui qui n'a plus de force. Tu ne nous abandonnes pas, tu nous relèves, Seigneur. Ô Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, ce matin, tu connais chacun. Relève celui qui passe par des moments difficiles. Seigneur, nous savons que tu aimes tes enfants. Merci d'exaucer nos prières. Amen.